Le débat de midi, c'est parti. Là-haut, c'est la guerre des étoiles. Pas celle qui oppose les Jedi au côté obscur de la Force, mais celle que se livrent 3 milliardaires pour être les premiers au monde à développer le tourisme spatial. J'ai nommé Elon Musk, Jeff Bezos et Richard Branson. Ces deux derniers viennent de faire un petit tour dans l'espace. Quant au patron de Tesla, il projette d'envoyer prochainement des touristes sur l'ISS, de faire le tour de la Lune et de développer le premier hôtel spatial, rien que ça. Alors que pour l'instant, ce n'est pas donné, hein, loin de là, 250 000 euros pour être un peu plus près des étoiles. Avec un vol d'une dizaine de minutes dans l'espace, il faut avoir les moyens. Mais avant de devenir l'une des plus grandes destinations touristiques au monde, les pyramides d'Égypte n'avaient comme visiteurs que quelques happy few. Alors, prendra-t-on bientôt la fusée, comme aujourd'hui on prend le train? C'est la question qu'on se pose.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Mais comme tous les jours, on commence l'émission en ouvrant le journal et c'est l'Obs qu'on feuillette aujourd'hui avec vous, Sylvain Courage, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait débat dans vos pages aujourd'hui? D'ailleurs, pas que dans vos pages, puisque c'est la couverture hein, du magazine de cette semaine.
Ouais, ce qui fait débat, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Alors, c'est l'ensemble des techniques qui consisteraient à refroidir la planète. Alors, soit en pulvérisant des aérosols pour constituer un voile qui nous protégerait des rayonnements du soleil, ou en agissant, en captant le carbone dans l'atmosphère. Ce sont des rêves de chercheurs pour l'instant, un peu des apprentis sorciers du climat, mais c'est envisagé quand même comme une solution dans la mesure où l'humanité a bien du mal, comme on peut le constater, à freiner son mode de développement et à réduire ses émissions de CO2. Et donc on voit apparaître ces solutions globales qui sont portées également par des milliardaires que vous évoquez aujourd'hui pour la conquête de l'espace, mais c'est aussi Bill Gates et Elon Musk qui
s'intéressent
très précisément à ces techniques de géo-ingénierie. Donc on fait le tour de toutes les solutions pour refroidir la planète, combattre le réchauffement climatique de manière globale.
Tout ça avant la publication d'un rapport, d'une première partie de rapport en tout cas, hein, qui doit être rendu public le 9 août prochain, c'est-à-dire lundi prochain, un rapport du GIEC qui s'annonce encore plus alarmant que les précédents.
Voilà, et c'est aussi ce qui renforce l'attrait pour la géo-ingénierie, c'est que devant l'incapacité de freiner, les scientifiques proposent de corriger, puisque nous avons modifié le climat, c'est ce qu'on appelle l'anthropocène, hein, c'est l'homme qui modifie les conditions climatiques à la surface de la Terre, et bien peut-être que l'homme peut intervenir pour les corriger dans l'autre sens. Alors c'est un rêve prométhéen, c'est un vieux rêve de diriger le climat, de se rendre un peu maître du soleil, mais c'est aussi une série de technologies qui sont déjà étudiées, développées. On en est aux premières expérimentations et on en est aussi aux premières controverses parce qu'évidemment, on ne mesure pas forcément toutes les conséquences qu'auraient ces techniques. On voit bien qu'on n'est qu'au début d'un processus, mais même le GIEC aujourd'hui considère certaines parties de la géo-ingénierie comme une partie de la solution au réchauffement climatique.
Vous évoquez par exemple l'expérience menée par l'Émirat de Dubaï ces dernières semaines, hein, où il fait très chaud en ce moment, 50 degrés, pour provoquer artificiellement des pluies en envoyant des drones qui diffusent dans les nuages des cristaux de sel.
Voilà, donc ça c'est travailler sur les nuages, faire pleuvoir, épaissir la couverture nuageuse, blanchir la terre hein, aussi. Il y a la solution qui consiste à mieux réfléchir les rayons du soleil en jouant sur cet effet-là qu'on appelle l'albédo. Il y a énormément de solutions possibles. Nous on en a étudié
quelques-unes.
Une douzaine. Mmh. Certaines sont beaucoup plus fantaisistes que d'autres. Par exemple, certains scientifiques rêveraient de modifier la trajectoire de la Terre. On voit bien que là, on est plus dans la science-fiction que dans la science.
Avec cette question qui se pose et qui est quand même sous-jacente, c'est qu'il ne faudrait pas que ces solutions techniques, et vous le rappelez bien dans le journal, hein, on en est encore loin, mais que ces solutions techniques masquent les progrès que l'homme, tout simplement, devrait réaliser pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre.
Bien entendu, notre position, c'est de dire qu'il faut laisser ouverte la question et laisser les scientifiques travailler sur ces sujets. Mais la première obligation, l'urgence, c'est évidemment de réduire nos émissions de CO2, et que si la géo-ingénierie finit par proposer des techniques viables, ce ne sera qu'une partie de la solution. Il ne faut pas espérer une solution miracle au problème du réchauffement climatique.
Eh bien, merci Sylvain Courage. Donc cet article, ce dossier même, hein, consacré au climat et à la science, peut-être science-fiction, vous l'avez dit vous-même, hein, c'est une question qu'on peut se poser. C'est à retrouver dans l'Obs, sorti ce jeudi. Merci à vous.
Merci à vous.
Ignition.
And touchdown. Welcome back, New Shepard's first.
Now, on to how it felt. Oh my God! Everybody who's been up into space, they're kind of amazed and awestruck by the Earth and its beauty, but also by its fragility.
La joie de Jeff Bezos à son retour sur Terre le 20 juillet dernier. Alors je traduis de manière très approximative. Ah mon Dieu, dit-il, en substance, hein, là-haut, je n'ai pu que constater la beauté de la Terre, mais aussi sa fragilité. Quatre invités aujourd'hui pour se poser la question du tourisme spatial. André Farran, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes conférencier à l'Institut du droit de l'espace et ancien chef de la division juridique des programmes à l'Agence spatiale européenne. Pierre Lyonnais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et directeur de recherche à Eurospace. Stéphanie Lizy-Détrey, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante chercheuse en conception des systèmes spatiaux. Et Emmanuel Rio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse également en physique, membre du groupe Passerelle. Alors c'est un groupe de réflexion autour des questions technologiques et écologiques. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe de constater la fragilité de la Terre, comme l'a fait Jeff Bezos, hein, on vient de l'entendre, tout en ayant consommé par personne et en 11 minutes de vol seulement, l'équivalent de 2 années de consommation de CO2 recommandées pour lutter contre le réchauffement climatique. Emmanuel Rio.
Oui, moi, c'est vrai que c'est là-dessus que j'avais envie d'intervenir, hein, le fait que le tourisme spatial en soi, c'est beaucoup d'émissions de CO2, et c'est ce qui était évoqué dans votre introduction avec l'OPS, hein, donc... Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour diminuer les émissions? Est-ce que vraiment c'est le bon moment pour créer des activités très consommatrices comme celle du tourisme spatial?
D'autant qu'il n'y a pas que les émissions produites par le décollage et la combustion de l'essence. Quand on y pense, envoyer une fusée dans l'espace, il y a énormément à prendre en compte en termes de bilan carbone.
Alors, on pourrait prendre... Il y a la question du bilan carbone, et c'est pas la question unique. Il y a d'autres questions écologiques et environnementales. Mais effectivement, en ce qui concerne le réchauffement climatique, il faut, par exemple, prendre en compte la question des émissions de suie. C'est des tonnes de suie qui sont envoyées dans la stratosphère et qui risquent d'y rester longtemps, et beaucoup plus longtemps que celles qui sont émises par l'aviation civile, par exemple, parce qu'elles sont envoyées plus haut. Et ces suies, elles affectent aussi le climat, parce qu'elles augmentent aussi l'effet de serre. Mais on peut aussi prendre la question du béton. Si on veut envoyer des fusées, il faut créer des pas de tir. Si on veut faire un tourisme spatial important, ces pas de tir, ils sont énormes. C'est des milliers de mètres cubes de béton, et ça, c'est encore des émissions.
Pierre Lyonnais.
Alors effectivement, la question énergétique est un peu au centre de ce débat. Moi, j'aimerais reconstructualiser un tout petit peu le marché dont on parle, parce que le tourisme spatial aujourd'hui, ça reste extrêmement marginal. Et quand on voit effectivement les petits sauts de puce qu'ont réalisé Jeff Bezos et Richard Branson à la lisière de l'espace, hein, puisqu'en fait on dit ils sont allés dans l'espace, en réalité ils sont allés nulle part. Ils ont touché l'espace des doigts et ensuite ils sont revenus sur Terre, hein, avec le type de système qu'ils ont mis en place. Ils ne peuvent pas aller dans l'espace, ils ne peuvent pas y rester. Ils ne vont pas assez vite pour ça.
Vous voulez dire que c'est survendu ?
Ah, c'est clair, c'est beaucoup de marketing autour du terme utilisé. Aujourd'hui, l'accélération que Richard Branson et Jeff Bezos ont été capables de fournir à leur système est très inférieur à ce qui est nécessaire pour effectivement aller dans l'espace, comme le font les systèmes de Musk, mais aussi ceux de Boeing, d'Airbus et des autres, hein, qui sont aujourd'hui des vrais lanceurs orbitaux. Donc, on n'a pas suffisamment expliqué ça. Et de ce point de vue-là, la question énergétique est encore plus forte. Parce que si on trouve déjà que, pour aller faire un petit tour dans l'espace de quelques minutes, le bilan énergétique d'un système comme celui de Jeff Bezos ou celui de Richard Branson n'est pas bon. Si on multiplie par 10 cet effort énergétique pour atteindre la vitesse de satellisation, c'est à peu près l'ordre de grandeur qu'on a aujourd'hui. Et donc la mise en œuvre énergétique requise pour ça,
on
a encore une situation plus dure du point de vue du bilan énergétique. Donc c'est clairement aujourd'hui un questionnement qui est légitime.
Il n'empêche qu'il y a un engouement, Stéphanie Lizy-Détré. Si on regarde par exemple le projet Dear Moon, c'est ce projet qu'a Elon Musk de faire le tour de la Lune. Hein, il a reçu 1 million de candidatures qui voulaient aller sur la Lune avec lui en Europe. C'est au moins 22 000 personnes qui ont candidaté.
Oui, effectivement, ce type de grand projet, en tout cas, répond à la fascination et la curiosité de tout un chacun pour l'espace. Et comme vous l'avez souligné, il y a notamment eu cet appel à candidature dans le cadre du projet Dear Moon, donc qui est le projet du milliardaire japonais Yusaku Maezawa, qui est le premier client de SpaceX pour aller faire un voyage autour de la Lune. Et dans ce cadre-là, il veut être accompagné entre 6 et 8 artistes. Donc, il a fait un appel à candidature. Il a reçu 1 million de candidatures à travers le monde. Et effectivement, si on regarde les candidatures qu'ont reçues l'Agence spatiale européenne pour les postes d'astronautes, on avait 8000 personnes lors de la dernière candidature. Là, on a plus de 22 000 personnes. Donc, l'attrait pour l'espace est une réalité autour de nous.
Les études de marché prévoient, en tout cas pour Jeff Bezos, 50 000 volontaires potentiels par an avec des prix qui pourraient être divisés par 2, voire par 10, parce que pour l'instant, évidemment, ça reste très très cher. André Farran, est-ce qu'il faudrait n'autoriser que les vols scientifiques ?
En fait, les vols, le secteur privé, c'est-à-dire donc ces milliardaires qui veulent aller dans l'espace, contribuent au développement de nouvelles technologies. Donc, ils contribuent à l'avancement de la science qui permet d'aller dans l'espace. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, les laisser faire et les autoriser. Et dans la mesure où, maintenant, les gouvernements veulent consacrer des fonds à l'exploration spatiale, mais pour aller sur la Lune, pour aller sur Mars. Donc, l'orbite basse terrestre sera sans doute exploité, si je peux dire, par le secteur privé. Et ceci permet le développement de nouvelles technologies avec des fonds publics, naturellement aussi avec des fonds privés, pour retrouver la possibilité d'explorer l'orbite basse terrestre.
Sur franceinter.fr, Sylvie nous écrit « On commence à parler de tourisme durable pour limiter l'impact écologique du tourisme sur Terre. Et à côté de ça, on enverrait des touristes dans l'espace. Ça n'a aucun sens. De plus, ces touristes spatiaux sont des milliardaires. Or, comment devient-on milliardaire si ce n'est en exploitant la sueur des gens qui bossent? Ça fait vraiment bosser les pauvres. Moi, pendant ce temps, je m'envoie en l'air et je vous écrase de ma hauteur indécent. » Pierre Lyonnais, je vous ai vu secouer la tête.
Oui, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un peu de confusion. Il y a deux grandes dimensions de l'activité spatiale. Il y a l'activité qui aujourd'hui est financée par le gouvernement avec des programmes institutionnels. On parlait en ouverture d'émission de la problématique du GIEC. Aujourd'hui, si le GIEC a des modèles environnementaux cohérents, c'est aussi parce qu'il y a des modèles globaux de climat, des modèles globaux de circulation des vents, des modèles globaux de la température des mers, des modèles globaux de l'humidité des sols qui sont fournis par l'observation satellitaire. Dans ce contexte-là, on est dans une activité historique du spatial qui a une utilité incontestable. Et à l'échelle de l'impact carbone du lancement d'un satellite, on est vraiment sur un bilan positif. Un bilan positif au sens de l'information scientifique que nous délivre le satellite sur la situation de la Terre est complètement positif. Quand on regarde les activités extravagantes de gens qui effectivement sont très très riches et peuvent se payer des loisirs que personne d'autre ne peut se payer, on peut légitimement se poser la question. Après, j'ai un bémol quand même sur le développement technologique. Si on regarde ce que fait Branson utilise un système qui a été validé en 2002 avec un moteur hybride qui est de qualité mais qui ne permet pas aujourd'hui de satelliser un satellite et qui ne permet donc pas de développer autre chose que ce saut de puce dans l'espace, qui est difficilement envisageable pour faire du transport type avion de point à point. Donc le niveau de création technologique de Virgin Galactic, pour moi, il est aujourd'hui très très faible. Au niveau de Bezos et Musk, c'est un peu différent. En revanche, je voudrais souligner que la recherche technologique que Bezos finance de sa propre poche, elle cherche aujourd'hui un débouché vers les marchés de la NASA et du département de la défense américain. Donc ils vont revenir vers les budgets publics parce que la grosse demande aujourd'hui, elle est là. Et Elon Musk lui-même a quand même touché plus de 3 milliards et demi de fonds de R&D de la NASA et du département de la défense américain. On est donc bien dans des prestataires comme à l'époque Boeing, encore aujourd'hui Lockheed, Airbus, Thales Alenia Space, qui sont des prestataires des programmes spatiaux institutionnels.
Alors, vous parlez du prix, vous dites que pour l'instant c'est très cher, mais les modélisations expliquent aussi que bah, plus il y aura de monde qui partira dans l'espace, plus les prix vont baisser. Et si on est sur un ticket d'entrée aujourd'hui à 250 000 euros à peu près, des projections voient dans quelques années hein, des prix divisés par 10, donc 20 000 euros pour le vol, Emmanuel Rio.
Oui, ça reste. Enfin, même si on envisage, si évidemment les Virgin et Amazon envisagent une grosse augmentation, cette augmentation, c'est une démocratisation toute relative, hein, puisqu'il s'agit d'envoyer quand même des millionnaires ou des milliardaires dans l'espace, qui vont forcément s'arroger le droit de polluer à la place des autres. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il est inenvisageable de s'appuyer sur ces entreprises pour mettre en place un progrès technologique, c'est que eux, leur but, c'est essentiellement de vendre du tourisme spatial et de le faire croître un maximum pour pouvoir augmenter leur rentrée d'argent. Donc c'est peu raisonnable.
Alors se pose aussi évidemment la question de la sécurité. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des dangers, André Ferrand, à envoyer comme ça des astronautes qui ne sont pas forcément d'ailleurs tous qualifiés et qui ne sont pas d'ailleurs forcément des astronautes, la question se posera aussi, dans l'espace?
Tout d'abord, pour être astronaute, il faut répondre aux conditions posées par l'administration américaine dans ce cas-là, puisque c'est la FAA, la Federal Aviation Administration, qui pose les conditions dans un permis pour justement voler vers l'espace. Et donc, comme vous dites, ils sont pas astronautes dans la mesure où ils n'ont pas tout à fait répondu aux conditions de leur permis pour le moment.
Alors, ils sont passagers, juste.
Ils sont inqualifiés pour le moment au terme de la loi américaine, mais ils veulent être reconnus comme astronautes, mais puisqu'ils n'ont pas répondu à la condition de leur permis qui était de faire avancer la science, pour le moment, ils ne sont pas encore nommés officiellement astronautes par la FAA. Ceci dit donc, l'administration américaine, puisque c'est les États-Unis qui sont l'État responsable, l'administration américaine va justement superviser tout le développement de ce marché. Donc ça ne va pas être un marché sauvage où tout le monde va pouvoir y aller. Il y aura, à chaque fois qu'un vol est programmé, un permis donné par la FAA avec des conditions. Et sans doute, ces conditions seront aussi de faire non seulement avancer la science, mais reculer les questions de pollution, quoi.
Mais est-ce qu'il y a un danger aujourd'hui à partir dans l'espace de cette façon-là? Est-ce que ces vols sont sûrs, Stéphanie Lizy-Détré?
Alors, ces vols ne sont jamais sûrs. Il y a toujours une part de risque. D'ailleurs, on l'a vu dans le développement du programme de Virgin Galactic. Il y a eu malheureusement un accident avec un décès et une personne gravement blessée. Donc, on a toujours une part de risque. Et c'est la grosse différence, justement, entre un astronaute de métier et un touriste spatial. C'est que un astronaute de métier va s'engager et va assumer le risque de ne pas revenir, alors qu'un touriste, il y va, comme vous l'avez souligné, hein, pour son loisir et son plaisir. Donc, la part du risque, de la gestion du risque est complètement différente.
Mais ça change complètement le rapport qu'on avait jusqu'à présent à l'espace.
Complètement, oui. Justement, et puis ça change aussi la conception des systèmes qui vont transporter. On peut, tout à l'heure, vous le soulignez dans l'introduction, SpaceX est en train de préparer une mission pour septembre, pour la mission qui s'appelle Inspiration 4, avec quatre civils qui vont partir pour 3 jours en orbite, à une altitude qui est de 560 km. Et dans ce cas-là, comme c'est une mission qui ne va pas s'arrimer à la station spatiale, ils vont enlever le mécanisme de docking de la station et le remplacer par une baie pour leur donner accès et une visibilité à la Terre. Or ça, dans les différentes études que l'on a fait depuis longtemps, on a vu que c'était une part de fragilité d'un système. Donc s'ils veulent réussir, ils vont faire avancer la connaissance sur la conception des systèmes à ce niveau-là. Et effectivement, les passagers, là, ils assument ce risque-là. Et c'est beaucoup plus fragile que les vaisseaux classiques.
Prendrons-nous la fusée comme aujourd'hui on prend le train? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec vous aussi. Hein. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos questions sur l'appli ou sur le site de France Inter. Juste après la musique, on entendra Thomas Pesquet qui, pour une fois, ne s'enthousiasme pas trop ou tout du moins s'interroge sur la présence prochaine de touristes à bord de l'ISS.
Ladies and gentlemen, we just landed in Geneva. Yeah, that's in Switzerland. We're on the yacht. A young lady just fed me French vanilla ice cream. We all got our toes out too. Call me when you get lost.
I'ma travel the globe, you keep the block hot, driver. Open the door for me, my hair hurt, find us. We playing hide and seek with the passports. Where the fuck we at? Oh, the pilot gotta remind us, yeah. The luggage is piling, I need a clothes to wear. So many stinky sit in my wallet, look like a folding chair. The Cartier so light on my body, thought I floated here. We boated here, it's Tunchi and Tyler, but call me Baudelaire, yeah. Out in Switzerland, travel with my bitch, she gave me kissing dog. I love when she let me rub her like Michelin. 100 grand asleep on the bird, the wings are whistling like... Man, they ain't listening. We cross the line like immigrants and benefit from it. Keep on stunting on these niggas, make them sick to their stomach, man. Y'all don't understand. Fish so fresh that you could taste the same. Yeah, we getting lost, but we know who we aim. Bada, sun, sun, sun. Treat that last part like you niggas ain't saying nothing. Yeah.
You see these excursions right here? Just too lavish to post on the gram.
Excuse me, pardon me. The wind it blows so hard at me, like Mother Nature arguing about some baby father beeping. I'm stuck in the middle of the sandwich, like slaughter me. Got my middle fingers to the cameras that's recording me from y'all to me. Brrr. Stop calling me unless you're ordering. I'm on the beach, I got my feet out, and I stay on my feet. The corner beat, I'm on a deep route. Just throw the ball at me, thought all this lean would have me see now. I guess they see now. That's touchdown. Catch a beat down, like I catch touchdowns. I fuck around and slow the beat down and take the drums out. The speed of my blunts so greed, I'ma eat my own flow. And I'm in need of a flaw, I'ma eat me a rapper, I might as well eat me a hoe.
Oh.
I'm hot as hell when the weather is freezing the cold. As a devil, a demon, and ghost. I'ma get even some more. It's too late to even get low. Bow, whoop gang, that's what I need you to know. Moonlight, Weezy the goat. The wind beneath my wings, desert eagle underneath my coat. Yeah, mula.
Bitch. Hard wings.
Over here admiring the view of the mountains from the lake. Of course. Y'all know it's Wolf Haley, man. Stop fucking playing.
Le rapport californien Tyler the Creator et ce titre Odd Wind Blows. Vous pouvez retrouver toute la programmation musicale de l'émission sur les internets.
Le débat de midi, à retrouver pendant tout l'été à midi sur France Inter et en podcast sur franceinter.fr.
Quatre invités aujourd'hui pour nous intéresser à la question du tourisme spatial. André Faran, qui est conférencier à l'Institut du droit de l'espace. Emmanuelle Rio, qui est chercheuse en physique. Pierre Lyonnais, économiste et directeur de recherche à Eurospace. Et puis Stéphanie Lizy-Détré, qui est chercheuse en conception des systèmes spatiaux. Et vos messages également qui nous arrivent. Tous ont plus ou moins la même tonalité. Michel nous dit sur l'appli de France Inter « Je suis révolté par ces milliardaires qui ont pour seul souci de faire encore de l'argent alors que la planète Terre n'en peut plus de l'activité humaine. Arrêtez de les traiter comme des héros. Moi, on ne me fait pas des remarques lorsque je prends l'avion. Que dire ? Moi, on me fait des remarques, pardon, lorsque je prends l'avion. Que dire de ces pollueurs ? Benoît nous dit à peu près la même chose. Quand je vois des gens qui partent dans l'espace pour n'y passer que quelques heures, je me dis que mes efforts pour réduire mon bilan carbone sont anéantis par ces quelques milliardaires. Et puis Christophe qui par mail nous dit où s'arrêtera la folie de ces ultra riches pendant que la planète étouffe. Il prône un tourisme en fusée. Pour qui ? Pourquoi ? Quel intérêt ? Alors en 2019, l'agence spatiale américaine annonce qu'elle autorise des touristes, 2 missions courtes par an d'astronautes privés, hein, mais ça veut bien dire que ce sont maintenant des touristes qui vont partir dans l'espace. Pierre Lyonnais.
Oui, alors c'est une démarche un peu inattendue. Je veux dire, on peut se poser la question de pourquoi la NASA a fait ce choix. Je crois qu'il y a une volonté politique d'une part, Et puis, ça répond aussi aux objectifs de commercialisation de l'espace qui sont inscrits dans la politique spatiale américaine depuis maintenant, je dirais, une grosse trentaine d'années, avec Ronald Reagan qui a un petit peu lancé ça. Cette volonté, elle répond à une réponse un peu libérale à la question du programme public, qui est assez systématique aux États-Unis, que ce soit avec les programmes de défense et avec les programmes spatiaux, les programmes scientifiques en général. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que la NASA a ouvert la station spatiale à la commercialisation en mettant des prix de séjour, des prix d'accès, plutôt, etc.
Des prix plutôt élevés, puisque l'aller-retour, c'est 60 millions de dollars, l'aller-retour, et puis 35 000 dollars la nuit passée à bord.
Oui, mais alors ce qui est intéressant, c'est
qu'au départ, confort,
en 2019,
on a vu les images de Thomas Pesquet, c'est pas du 4 étoiles pour l'instant.
Ces prix étaient beaucoup plus faibles, donc elle les a remontés, et aujourd'hui, ces prix représentent effectivement quelque chose qui se rapproche un peu plus du coût réel de cette activité.
Emmanuel Rio.
Mais moi, je partage vraiment la révolte de vos auditeurs. Hein, et on parle là tout de suite de commercialisation de l'espace. Je pense qu'il faut rappeler que la commercialisation sur Terre, ça n'a pas toujours été une réussite. Qu'il y a des endroits qui sont maintenant interdits aux touristes parce qu'ils ont été abîmés par l'être humain. Je pense qu'il faut qu'on se pose la question pour l'espace.
La plage de Copipi, par exemple, le Machu Picchu dont on a réduit la jauge. C'est vrai qu'il y a plein d'espaces touristiques qui ferment au fur et à mesure.
Donc je pense qu'il y a cette question-là, et puis je pense qu'il faut quand même revenir sur l'idée que on n'enverra pas tous ces touristes, tous ces fusées dans l'espace à zéro émission, zéro énergie, quels que soient les progrès technologiques. Et donc aujourd'hui, on va arriver à un moment où il faut faire des choix sur qu'est-ce qu'on fait de l'énergie, et je vois pas dans quel monde ça peut être prioritaire d'envoyer des touristes faire du manège dans l'espace. Donc je pense que c'est vraiment du bon sens de dire que c'est pas raisonnable.
Alors, je voudrais justement vous faire écouter la voix de Thomas Pesquet, venu tout droit de l'ISS, qui s'étonne, en tout cas s'interroge, de cette prochaine venue de touristes.
Nous, on travaille quand même 12h30 par jour, tous les jours, du matin au soir. Enfin, le boulot est infini dans la station, quasiment par définition. Donc, d'avoir à côté des gars qui sont là pour regarder par la fenêtre et prendre des photos, déjà, ça peut être un petit peu étrange. Il faut que quelqu'un la prenne, la photo sur laquelle ils apparaissent, alors que nous, on n'a pas tellement signé pour ça, et puis qu'on estime avoir autre chose à faire. Donc, il va falloir trouver un bon équilibre. Il faut que ce soit clair pour les gens qui vont dans l'espace que nous, on va pas être là pour les aider. Enfin, je veux dire, on est sympa, mais on n'a pas le mandat de faire ça, c'est certain. Il va falloir définir un peu des règles et puis que tout ça se mette en place, on va dire.
On n'a pas que ça à faire, dit-il en substance, Stéphanie Lizy-Détré.
Effectivement, l'activité d'un astronaute dans l'ISS est vraiment très très chargée. Ils ont énormément d'expérience à conduire, d'activités de maintenance, et ils ont peu de temps pour s'occuper de touristes. Mais pour répondre à vos objections, moi je suis encore plus sidérée. Donc là, c'est la proposition de la NASA, mais si on regarde de l'autre côté, vous avez en Russie, vous allez avoir un vol en octobre, sachant que les vols sur le Soyouz sont très réglementés et très limités. Vous allez avoir un réalisateur et une actrice qui vont partir pour l'ISS pour réaliser un film pendant quelques jours dans l'ISS. Donc, effectivement, ils vont prendre du temps astronaute et des sièges qui pourraient être dédiés à des équipages qui, eux, sont dédiés à la science.
Ça nous ramène un petit peu au temps de la confrontation entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, hein, entre les Russes et les Américains, quand il y avait cet engouement pour la conquête de l'espace, puisque les Russes comme les Américains cherchent en effet à être les premiers à tourner un film dans l'espace. Et manifestement, pour le coup, c'est la Russie qui gagne encore, hein, puisque... vous l'avez dit, il y a un réalisateur et une comédienne russe, Yulia Prelysside, et le réalisateur Klim Chipenko, qui vont partir tourner le premier long métrage. Cela dit, Tom Cruise devrait bientôt aussi se rendre sur l'ISS, André Ferrand.
Oui.
Qu'est-ce que ça signifie que des comédiens se rendent dans les stations spatiales ?
En fait, la présence de touristes ou de ce qu'appellent les space flight participants, c'est-à-dire des touristes non professionnels à bord de la station, c'est une activité très réglementée. En fait, il y a une période d'entraînement très longue. Il faut parler des éléments de russe. Et donc, c'est très encadré. Ce qui est moins encadré, c'est justement les activités privées aujourd'hui qui ne touchent pas la station. Pour ce qui est de la station, les partenaires se sont entendus sur un cadre précis. Il y a eu déjà à peu près 4 ou 5 touristes de l'espace. Ça s'est assez bien passé. Naturellement, ce qui est difficile pour un astronaute professionnel, c'est de voir que ces touristes attirent toute la presse, attirent toute la publicité, alors que eux, ils ont consacré toute leur vie, toute leur carrière à cette activité. Les touristes, les astronautes professionnels. Alors, je peux comprendre qu'ils voient ça de façon différente. De notre côté, ça permet d'intéresser le public à une activité à bord de la Station Spatiale Internationale.
Il y a besoin de ça ?
Il y a besoin de ça parce que, en fait, il y a eu des études de menées et ce sont les activités astronautes qui intéressent au premier abord la population. Ce ne sont pas certes les activités de satellites qui tournent autour de la Terre, c'est vraiment les astronautes, alors que les budgets consacrés en Europe, entre autres, le budget public pour les astronautes, c'est à peu près 15% du budget total de l'Agence spatiale européenne, donc 85% est consacré à autre chose et à d'autres technologies. Mais quand on demande aux gens ce qui les intéresse, ben, c'est d'être astronaute ou de voir des astronautes.
Là, ça pose aussi la question, Pierre Lyonnais, de savoir qui est astronaute, qui ne l'est pas. Est-ce qu'il suffit d'aller dans l'espace pour dire « je suis astronaute » ?
Ce serait un peu dire « j'ai pris l'avion, je suis pilote ». Pour moi, c'est ridicule. Et je voudrais rappeler quand même que sur la question de la massification de cette activité, j'ai sous les yeux une étude de marché de 2006 sur le tourisme spatial. Et puisque donc, faut pas oublier, Virgin Galactic, fondée en 2004, Blue Origin de Jeff Bezos, fondée en 2000, donc c'est pas des boîtes qui sont nées avant-hier. Et justement, sur la proposition initiale, il y a un marché qui va se développer sur le tourisme spatial. La projection à l'époque nous indiquait qu'on allait avoir 13 000 passagers en 2006, 2021.
Donc. On dit qu'on est en 2021. En 2006, on dit qu'en 2021, on a 13 000 passagers.
Voilà. D'accord. Et les projections qu'on fait aujourd'hui ont la même forme que celles qu'on faisait à l'époque. Moi, je pense que personne ne va s'enrichir avec ce marché. Je pense que c'est un marché qui va rester un marché de niche. Je pense que c'est impossible que ça se développe largement. Pour moi, ces chiffres de 10, 12, 13 000 passagers par an n'ont aucun sens. À partir de là, effectivement, on peut être gêné par cette activité d'un point de vue moral, des gens qui dépensent beaucoup d'argent, qui effectivement consomment beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Mais on peut comparer aussi ça aux gens qui prennent un Falcon, les gens qui prennent un hélicoptère pour se déplacer. Donc, à une échelle différente, on est dans la même démarche. Donc, tant que ça reste une niche, moi, je ne serais pas choqué. Sur l'intérêt spécifique d'avoir du vol habité pour entretenir l'intérêt de la population et éventuellement l'intérêt politique pour le spatial, je suis très partagé. Mmh.
Vous avez cette très bonne punchline, vous nous avez dit quand nous avons préparé l'émission, c'est un Space Mountain pour les très riches.
Oui, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, ce que ces gens-là achètent, c'est une sensation. L'accélération, la partie en apesanteur, et ensuite l'accélération et nouveau léger quand ils atterrissent. C'est un peu comme le soie élastique. Hein, c'est vraiment, on achète de la sensation, puis bon, évidemment, on est sur le viaduc. Avant de sauter, on a une belle vue.
Stéphanie,
je suis quand même perplexe.
Stéphanie Lizy-Détré, vous nous disiez en début d'émission que ça pouvait aussi servir à faire avancer la recherche spatiale, mais on peut s'interroger. Par exemple, SpaceX, donc, qui va envoyer ce milliardaire, vous nous racontiez hein, cette histoire de milliardaire japonais qui va faire le tour de la Lune. En quoi, avec à son bord des artistes, en quoi ça peut servir la recherche spatiale?
Alors il faut se placer à plusieurs niveaux. Donc à très court terme, on peut effectivement ces vaisseaux peuvent être équipés de senseurs pour avoir une meilleure connaissance de l'environnement spatial et pour prendre des mesures in situ. Mais si on se place à une plus longue échéance, on va se tourner vers l'exploration et en particulier tout ce qui va être exploration de longue durée de la Lune ou de Mars. Et donc tout ce type de mission permet d'avoir des connaissances sur les systèmes qu'il faut emporter, c'est le comportement de l'humain, les risques à prendre, les contraintes à considérer.
Mais y a-t-il besoin de touristes pour le faire?
En fait, on a besoin de plus de gens. Si on regarde on a que 500 personnes qui sont allées dans l'espace actuellement, et ce qui fait une toute petite population. Donc, pour pouvoir couvrir l'ensemble des profils, pour pouvoir avoir le plus de données possible, c'est intéressant. Et on a une telle disparité dans le comportement de l'être humain que chaque personne n'est pas suffisamment représentative, effectivement.
André Farran.
La question, c'est est-ce qu'on peut s'intéresser aux astronautes ?
Non. C'est de savoir si on a besoin d'envoyer ces touristes pour faire progresser la recherche spatiale, finalement.
Vous dites beaucoup touristes, en fait. C'est des touristes.
Bah, c'est le tourisme spatial, c'est le thème de l'émission.
Oui, c'est ça, mais c'est aussi des futurs astronautes, si je peux dire. Et en fait, ça fait 60 ans que l'activité spatiale est commencée, l'activité humaine spatiale, et on cherche de nouveaux scénarios, des nouveaux. Et par exemple, tourner un film à bord de la station, ce sont des questions qui se discutent depuis 10-15 ans, et peut-être que ça va se réaliser d'ici la fin de l'année. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne avancée, et ça va nous faire connaître, comment dire, la possibilité à la population en général que ces choses-là sont possibles et qu'on peut même rêver et faire de choses encore plus fantastiques à bord de la station ou même séparément de la station.
Mais faire quoi, par exemple, de fantastique?
Fantastique, d'ailleurs, d'avoir des activités commerciales humaines à bord de la station, c'est assez fantastique parce qu'il faut amener des gens, il faut les entraîner, il faut trouver les investissements qui vont avec. Alors, ça développe des activités qui, depuis 60 ans, tournaient un peu sur elles-mêmes. Ça veut dire, par exemple, de la station spatiale, c'est un grand projet, ça fait 20 ans, mais elle tourne autour de la Terre, et maintenant, il faut trouver d'autres scénarios de développement vers et pour permettre aux États d'identifier des fonds pour aller sur la Lune et plus tard, d'aller sur Mars. C'est ça, le défi qui se pose en ce moment.
Sur l'appli de France Inter, Jean-Paul nous dit « Il faut essayer de faire le parallèle avec l'industrie automobile. Au départ, seuls quelques très riches possédaient une voiture. L'automobile se démocratise ensuite, entraînant moult pollution et autres problèmes insolubles que l'on essaye tant bien que mal de régler de nos jours. » Mathieu nous dit « Cette émission est très intéressante, mais il faut préciser que la fusée New Shepard de Jeff Bezos utilise de l'oxygène et de l'hydrogène comme carburant, ce qui fait d'elle un lanceur qui rejette uniquement de la vapeur d'eau. Ce lanceur est donc différent de la pollution dont vous parlez. De même, le prix de 250 000 dollars n'est absolument pas un chiffre officiel ni une bonne estimation. Actuellement, cela coûte plus d'un million de dollars pour envoyer, nous dit Mathieu, chaque passager dans la New Shepard. Et puis, cet autre témoignage sur le mail de France Inter. Sommes-nous en train d'assister à une Disneylandisation de l'espace? Que peut-on attendre d'autres de ces sociétés comme Virgin ou Amazon, dont l'ADN est le commerce et le divertissement? Emmanuel Rio.
Commençons par la question de l'hydrogène. Moi, je voudrais quand même souligner qu'aujourd'hui, si l'hydrogène ne rejette que de l'eau, pour l'instant, on sait que le fabriquer de manière massive que en brûlant d'autres carburants, donc ça ne fait que déplacer le problème. Et je pense qu'en fait, c'est assez général. C'est-à-dire qu'il faut se retirer de la tête que des progrès technologiques permettent de récupérer de l'énergie sans utiliser de la matière et sans émettre du CO2. Alors peut-être que sur l'hydrogène, on fera des progrès un jour, mais je veux dire, aujourd'hui, on a quand même un enjeu qui est ultra important pour l'humanité, qui est celui du réchauffement climatique et sur qui va falloir se coltiner un jour. On peut pas mettre comme priorité de relancer l'intérêt de l'humanité pour le tourisme, enfin pour l'espace et la conquête spatiale en général, alors que on a aujourd'hui un enjeu qui est vital pour l'humanité, qui est de mettre des priorités sur qu'est-ce qu'on fait de nos ressources. Et il va falloir se coltiner cette question. On peut pas passer à côté.
Et on attend un rapport du GIEC sur cette question justement lundi prochain. Il y a aussi, ça pose aussi la question des débris qui sont très nombreux dans l'espace. Donc là, forcément, il y a plus de monde dans l'espace. Ces touristes, ou on les appelle comme on veut, vont également contribuer à rajouter dans débris. Des débris, celles et ceux qui ont vu le film Gravity se souviennent que ce sont ces débris qui tournent très très vite autour de la Terre, qui détruisent le vaisseau spatial. Stéphanie Lizy-Détré, comment on peut les gérer, ces débris, dans l'espace?
Alors, gérer, c'est un grand terme, parce que effectivement, suivant
on ne peut pas les gérer,
le pays. Oui, actuellement, on a une forte population de débris en fonction des différentes altitudes dans l'espace. Et c'est ce que j'allais dire. Et en fonction des états d'où est lancé le satellite ou le véhicule, on va avoir des contraintes qui seront différentes. Donc, si on est en orbite basse, on va demander à un satellite en fin de vie de rentrer vers la Terre pour qu'il soit brûlé pendant sa trajectoire dans le retour vers la Terre. S'il est dans des orbites plus élevées comme l'orbite géostationnaire, on va l'envoyer vers une orbite cimetière et il va rester là en orbite. Donc,
il reste là, c'est un cimetière de satellites et sa bouche, il continue à tourner en étant mort autour de la Terre.
Voilà. Donc effectivement, plus il y a d'activité et plus ça va générer des débris, comme vous le disiez, parce que ces satellites en fin de vie, ils peuvent exploser, ils peuvent rentrer en collision avec d'autres satellites, en plus des satellites qui peuvent être fonctionnels. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet cascade, hein, de générer de nouveaux débris qui, eux, vont très vite et qui deviennent très dangereux également. Donc pour l'ISS, en fait, si on regarde l'ISS, on voit qu'il y a plein de petits impacts justement qui sont liés à des rencontres avec des petits débris, mais aussi elle est capable de faire des manœuvres pour éviter. Mais actuellement, on n'a pas de solution. En tout cas, il n'y a pas eu de démonstrateur de venir nettoyer l'espace, de venir enlever ces débris. À part une des solutions, ça serait d'étendre la vie des satellites opérationnels pour éviter d'avoir à les remplacer, donc éviter des lancements qui généreraient de la pollution, et effectivement étendre la vie de satellites qui sont déjà en orbite plutôt que de.
Et c'est une solution qui est en cours, qui est envisagée ou qui est loin d'être développée?
Alors, c'est la thématique de ce qu'on appelle le service en orbite et qui est vraiment en cours d'étude chez les plus grands acteurs du domaine spatial, parce que derrière, il y a la notion de service, effectivement. Et lorsqu'on vend un satellite à un opérateur, on lui vend des services et donc l'opérateur est lui-même intéressé pour étendre la vie de son satellite pour ne pas avoir à le remplacer par un nouveau et avec le risque de perdre sa bande de fréquence. Donc ça, il y a eu une démonstration en 2019 avec un satellite qui est venu rajouter un kit de propulsion sur un satellite en orbite géostationnaire. Donc ce sont des études qui sont en cours. Après, pour revenir à la discussion et tout l'engouement qu'il y a avec l'exploration de la Lune et de ses vols habités, effectivement, le risque, c'est de générer des nouveaux débris dans un espace au-delà de la Terre et qui peuvent avoir des trajectoires qui restent dans l'espace pendant de très très longues années.
Le tourisme spatial en question dans le débat de midi, un peu plus près des étoiles. On attend toujours vos réactions sur le site ou l'appli de France Inter. Réactions d'ailleurs qui, quand on y pense, s'approchent aussi des étoiles, puisqu'il est très probable que les messages que vous nous envoyez passent par les satellites. Il est midi 45 sur France Inter et nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
Montre-moi ton point sensible.
Oh,
Malek Djoudi, Point Sensible, c'est le titre de cette chanson.
Thomas Chauvineau, le débat de midi.
Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
C'est tout la semaine prochaine pour éviter les cochons dans l'espace.
Quatre invités aujourd'hui pour s'intéresser au tourisme spatial. André Farran, qui est conférencier à l'Institut du droit de l'espace. Emmanuel Rio, qui est chercheuse en physique. Pierre Lyonnais, économiste. Et Stéphanie Lizy-Détré, qui est chercheuse en conception des systèmes spatiaux. Alors, bon, on vient d'entendre l'Enterprise, où on vit plutôt bien, qui permet de voyager facilement, de manière confortable, et puis de faire voler beaucoup d'astronautes. Le patron d'Amazon, lui, veut bâtir des colonies spatiales flottantes également, un peu comme des enterprises, hein, où des millions de gens pourraient travailler et vivre. Celui de Tesla envisage d'aller sur Mars pour installer des bases humaines. Est-ce que c'est possible, selon vous, Pierre Lyonnais?
Alors, est-ce que c'est possible? À un moment donné, si Bezos décidait de trouver des partenaires pour financer un projet qui consisterait à créer des stations orbitales. Alors, on parle d'un diamètre d'un kilomètre, on parle d'une dimension de 14 kilomètres de long, on parle d'une population peut-être de plusieurs dizaines de milliers de personnes à bord. Techniquement, ça paraît extrêmement difficile à réaliser. La taille des structures, le fait de pouvoir conserver un environnement atmosphérique, un bilan énergétique, avoir des végétaux qui poussent, garder une gravité artificielle, tout ça aujourd'hui paraît absolument pas à la portée de la technologie. Créer un petit habitat comme celui de la station spatiale et l'entretenir en faisant monter régulièrement de l'oxygène, de l'eau et des vêtements propres, hein, parce qu'il faut pas oublier que on sait pas laver les vêtements dans l'espace, hein. Ça aujourd'hui c'est ce qui est à notre portée. Donc ces grands rêves, hein, que ce soit celui de la colonisation de Mars de Musk ou que ce soit celui de la station type Gérard Kéonil, hein, puisque c'est un projet qui a été développé dans les années 70 par un scientifique américain. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est de la dimension du rêve. Beaucoup de briques technologiques sont disponibles, donc on pourrait commencer à réfléchir à ce qu'il faudrait pour le mettre en œuvre. Après, moi, je pense qu'une question qui est légitime, c'est pourquoi ? Pourquoi et à quel prix ? Là, on revient plutôt vers les questions de vos auditeurs. Est-ce que ça a un sens d'aller vivre dans l'espace et continuer à détruire la planète Terre? Bezos dit, on va sanctuariser la Terre, et donc on va tous la quitter. Alors pourquoi la sanctuariser? Je veux dire, moi, c'est formidable d'avoir une nature riche et sympathique à côté de moi, et si je ne peux pas en profiter, je ne vois pas l'intérêt.
Sur franceinter.fr, Dominique nous dit, il n'y a pas que des auditeurs indignés, il ne faut pas s'en tenir aux apparences et aux buzz simplistes. L'apport de l'argent privé de la recherche à la recherche innovante et bénéfique. Le tourisme mondial s'est démocratisé à partir de riches touristes qui ouvraient une voie. Et puis Thibault nous dit, convaincu de la nécessité d'avoir des scientifiques dans l'espace pour faire progresser l'humanité, mais avant les milliardaires, il faudrait y envoyer des artistes, des peintres, des poètes, des compositeurs, mais que des bon qu'aurait fait un Monet d'un lever de terre ou un Rimbaud d'une sieste en apesanteur, Emmanuel Rio.
J'entends hein, les rêves qui sont derrière, derrière cette intervention. Après, je pense que la question aujourd'hui, c'est aussi d'avoir les pieds sur terre et de se poser non seulement la question du pourquoi qui a été posée juste avant, mais aussi la question de par qui. C'est-à-dire que une question qu'on a effleurée et pas qu'on n'est pas complètement rentré dedans depuis le début, c'est pourquoi aujourd'hui ce sont ces milliardaires qui mettent en place la conquête spatiale, mais du coup qui prennent les décisions. C'est-à-dire qu'ils décident aujourd'hui d'utiliser l'énergie qui est nécessaire pour faire du tourisme spatial et pas pour autre chose. Donc ils prennent des décisions qui engagent l'humanité alors qu'ils sont tout seuls et qu'en plus ce sont les plus gros pollueurs de la planète.
Enfin, ils ont été autorisés. Ils ont été autorisés par la NASA notamment. Qui les accueille, puisqu'on l'a dit, la station est ouverte maintenant aux touristes.
Oui, bien sûr, ils partent pas tout seuls, mais à la fois en termes de la publicité qu'ils font et de là où ils décident de mettre de l'argent, il y a quand même des décisions qui sont prises par eux. Alors par ailleurs, on pourrait effectivement se poser la question de comment est-ce que le reste de l'humanité prend en main ces questions-là et les débats qui vont avec, hein, y compris sur les décisions que prend la NASA et par exemple.
André Farran.
Oui, excusez-moi, les investissements qui se font, quand on regarde l'histoire de SpaceX, par exemple, c'est Elon Musk lui-même qui avait, avec ses fonds qu'il avait pris de PayPal, développé des technologies. Et ensuite, avec l'aide de l'argent public, il a mis à la disposition de la NASA certaines technologies et il va les mettre aussi pour la découverte ou l'exploration de la Lune. Et donc, ça fait avancer la technologie dans ce sens-là. Forcément, c'est des millionnaires parce que ça coûte des milliards pour aller dans l'espace. Et qui peut se l'offrir ? Ben, c'est seulement les millionnaires. Maintenant, les décisions, c'est-à-dire, il y a des projets qui sont proposés par les millionnaires, mais qui sont autorisés par les gouvernements en vertu d'une politique de commercialisation aux États-Unis.
Mais ça veut dire que les financements publics ne fonctionnent plus ?
Les financements publics ne peuvent pas croître à un rythme qui permet un changement radical d'approche et de scénario, puisque on va peu à peu, on augmente, ça couvre l'inflation, etc. Mais ce qu'on avait vécu au début des années 60, où on dépensait 4 fois plus aux États-Unis pour aller sur la Lune avant la fin des années 60, ben on n'est plus dans cette période-là. On a un budget qui augmente un peu chaque année et donc il faut cibler les nouvelles activités qu'on veut faire. Et l'activité prochaine, c'est la découverte et de la Lune et l'exploration avec de l'argent public de la Lune, mais en se servant des services offerts par le secteur privé, c'est-à-dire SpaceX et les autres.
Pierre Lyonnais, vous voulez réagir ?
Oui, je suis un peu choqué quand j'entends ça. Je trouve qu'il y a une petite erreur d'appréciation. Aujourd'hui, si je regarde l'activité spatiale dans le monde, elle est d'abord financée par les pouvoirs publics, quelle que soit la dimension qu'on regarde. Quand on regarde les programmes futurs d'exploration lunaire, ils sont financés par la NASA. Le fait que ce soit un prestataire privé qui réalise la prestation, c'est exactement comme quand le gouvernement français demande à Bouygues de fabriquer le nouveau Pentagone français. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis des années. Donc, il ne faut pas confondre le prestataire et la mise de fonds. Quand on parle de tourisme spatial, ce qui est intéressant, c'est de regarder la mise de fonds que font les acteurs du privé pour créer un marché qui aujourd'hui n'existe pas encore. Et si on compare cette mise de fonds initiale à ce que finance aujourd'hui la NASA, l'ESA, la Chine, on a tendance à ne pas assez en parler, hein, qui a monté sa propre station spatiale, etc., les Russes, si on compare ces mises de fonds, on est sur un ordre de grandeur, je dirais, de 1 à 10. 1 pour le secteur privé, 10 pour le secteur public, qui est aujourd'hui le grand promoteur de l'activité spatiale mondiale et qui est aujourd'hui la puissance séminale qui réalise les grandes orientations de cette programmation spatiale. Ce n'est pas du tout le secteur privé qui fait le tempo.
Alors, il y a ce fantasme d'un monde spatial, de vaisseaux qu'on pourrait prendre pour atteindre des planètes, vivre ailleurs, comme on l'a entendu dans l'extrait de Star Trek tout à l'heure. Stéphanie Lizy-Détré, vous qui êtes chercheuse en conception de systèmes spatiaux, est-ce que ça, ce sera un jour possible, selon vous ?
Alors, juste avant de répondre à votre question, je voulais effectivement revenir sur les commentaires qui ont été faits avant. Et c'est vrai qu'on s'offusque, on commente sur l'activité qui se passe aux États-Unis, mais en parallèle, pendant la même semaine, la Chine a fait des essais de vols suborbitaux et c'est des programmes qu'ils courent depuis plus d'une dizaine d'années et on n'en parle pas. Donc, il faut effectivement rétablir l'équilibre. Certains sont plus médiatiques, mais il y a quand même d'autres projets par ailleurs. Et donc, la question est plus générale. Pour en revenir effectivement à la question sur des scénarios ou avec des échanges entre interplanétaires, en fait, c'est des scénarios sur lesquels on travaille, sur lesquels on envisage, on a comme on le disait tout à l'heure sur déployer des colonies ou des grandes bases spatiales, on a des briques de base. Et il y a certaines technologies qui sont à des niveaux de connaissances qui sont encore assez bas et sur lesquels il faut continuer à faire de la recherche et du développement pour pouvoir les atteindre, mais sur d'autres aspects, ça semble faisable.
Mais à horizon 2050, 2080, 2100, si jamais le réchauffement climatique nous permet d'aller jusque-là.
Effectivement, si on se projette vers un survol de Mars, on est plutôt habité, hein, on est plutôt sur du 2035, donc ce genre de scénario, nous on les envisage pour effectivement un terme beaucoup plus lointain qui pourrait être au-delà effectivement de 2100 puisque ça demande la mise en œuvre du déploiement d'infrastructures qui sont pour l'instant uniquement des concepts.
Emmanuel Rio, si on accepte les considérations environnementales dont vous nous avez parlé, les considérations financières évidemment qui ne sont pas négligeables, si on vous proposait d'aller dans l'espace, est-ce que vous iriez ?
Alors là, je vous avoue que je n'ai jamais personnellement été vraiment attirée par ça. Et ça ne veut pas dire que je ne comprends pas infiniment les gens qui peuvent rêver d'aller dans l'espace, mais moi, ce n'est pas mon rêve principal.
Vous n'iriez pas, Pierre Lyonnais ?
Moi, certainement pas, non. Non, en plus, ça sent pas très bon dans les stations spatiales, c'est renfermé, on change pas beaucoup l'oxygène, on transpire sous les bras, on lave pas les vêtements, sûrement pas, non.
Eh bien, écoutez, merci à tous les quatre d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui dans ce débat de midi. Le débat de midi, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour... Demain, qu'est-ce qu'on fait demain ? Demain, on s'intéressera aux pesticides et on attend déjà vos réactions, vos commentaires, vos avis sur l'appli ou le site de France Inter. Le monde peut-il se passer de pesticides ? C'est la question qu'on se posera demain.